Chapitre 13. Des affaires en ville. Les deux amis auraient pu se faire apporter un repas. Pourtant, lorsque Moiraine eut soigné Suan, elles décidèrent d'aller au réfectoire. Pas question de manquer leur premier dîner d'Aes Sedai dans la salle à manger réservée aux sœurs. Un sanctuaire où les acceptés étaient très rarement invités, et les novices jamais, sauf pour servir à table. Dans la vaste salle au plafond voûté, des tapisseries aux couleurs vives égayaient les murs blancs, rehaussés par de larges moulures dorées à leur fin. Les tables carrées aux pieds délicatement sculptés étaient conçues pour 4 convives seulement, et assez espacées pour assurer la confidentialité des conversations. Aujourd'hui, cependant, on en avait placé plusieurs côte à côte, pour accueillir de plus grands groupes de dîneuses. Étant les seuls à arborer leurs châles, Moiraine et Suan eurent droit à des regards curieux et à quelques sourires un rien moqueurs. L'héritière de la maison d'Amodred s'empourpra, mais il aurait fallu bien plus que ça pour la pousser à laisser le châle chez elle lorsqu'elle sortait. Après avoir peiné si dur pour l'obtenir, même des rires gras n'auraient pas suffi. Traversant le sol carrelé aux couleurs des 7 ajats, Suan adopta délibérément une démarche de reine. Volontiers provocatrice, elle tira sur son châle pour l'ajuster sur ses épaules. La fille de pêcheur n'était pas du genre à se laisser démonter. En ces lieux, pas de banc, bien sûr, mais des chaises élégantes aux dossiers bas et aux pieds sculptés pour s'harmoniser avec ceux des tables. Dans leur réfectoire, les acceptés devaient se contenter de ce qu'on leur servait. Ici, une jeune femme, la poitrine ornée d'une flamme de tarvalonne, récitait le menu d'une voix chantante avant de prendre les commandes. Alors que les acceptés mangeaient dans de la poterie bas de gamme et devaient débarrasser la table ensuite, la jeune serveuse, ici, apportait les assiettes de porcelaine blanche, de très jolies pièces du Tarabone au bord orné de la flamme, sur un plateau d'argent. La vaisselle du Tarabone n'égalait pas celle du peuple de la mer, certes, mais elle sortait néanmoins de l'ordinaire. Suan se plaignit de l'assaisonnement trop soutenu du poisson. Elle n'en laissa pourtant pas une miette, à part les arêtes, et sembla très tentée d'en commander une deuxième portion. Moiraine choisit une soupe de légumes et de bœuf. Se découvrant un tout petit appétit, elle se contenta en fait d'un morceau de pain noir et d'une tasse d'infusion. Elle devait s'évader, mais c'était impossible. Se dérober à une mission assignée par la chère Bamerlin était tout simplement impensable. Cela dit, le hall finirait peut-être par renoncer à son plan. Depuis que Tsutama lui avait demandé si elle avait déjà songé à régner, plus personne ne lui avait parlé de ce sujet. Les choses se tasseraient peut-être toutes seules. L'espoir n'était pas bien grand, mais ça valait mieux que rien. Quand les deux jeunes femmes furent de retour dans les quartiers de l'Âge Bleu, Éadith les convoqua dans son bureau. Dès leur arrivée et sans une once de cérémonie, elle tendit à chacune une lettre de change d'un montant de 1000 couronnes d'or.
« À partir de maintenant, la Tour Blanche vous en remettra une chaque année. Si vous êtes absente, elle sera confiée à la banque de votre choix. »
Le malaise d'Éadith, lors de son premier discours, n'était plus qu'un mauvais souvenir. Très souriante, elle semblait ravie d'avoir de nouvelles recrues.
« Ne jetez pas l'argent par les fenêtres. Si nécessaire, on vous en donnera plus. Mais quand ça arrive trop souvent, on finit par devoir répondre à des questions embarrassantes devant le hall de la tour. Croyez-moi, ce n'est jamais une expérience agréable. »
Suan avait déjà roulé des yeux ronds comme des billes en découvrant la somme. Elle les écarquilla davantage encore, passant à des soucoupes, quand Éadith mentionna la possibilité d'obtenir une rallonge. Peu de marchands avaient des revenus supérieurs, et bien des nobles devaient faire avec beaucoup moins que ça. Mais la Tour Blanche ne pouvait pas laisser ses sœurs dans le dénuement. Au Palais du Soleil, Moiraine avait appris que l'image du pouvoir comptait au moins autant que le pouvoir lui-même, quand il s'agissait d'en imposer aux gens. La fortune était un des attributs de la puissance, tout simplement. Moiraine avait un banquier, bien entendu. Elle proposa de le présenter à Suan, qui refusa, et déposa sa lettre de change auprès de la tour. En toute une vie de labeur, son père n'était pas parvenu à gagner 1000 couronnes d'or. Une somme pareille dans une banque privée? Quelle folie! Non, pas question de prendre le moindre risque. Aucun argument de Moiraine ne fit mouche. Se souciant exclusivement de la sécurité des fonds, Suan jugea qu'un établissement assez vieux pour avoir prêté de l'or à Arthur Aldefaucon ne pouvait pas en remontrer, sur ce plan, à la première banque fondée, après la dislocation du monde. Son châle bleu fièrement posé sur les épaules, Moiraine loua une chaise à porteur sur la grande place, qui s'étendait devant la tour. Comme à l'accoutumée, une multitude de colporteurs, de marchands ambulants, d'acrobates, de jongleurs, de musiciens, et de vendeurs de tourtes à la viande et de cacahuètes grillées, se livraient à leurs petites affaires, tout en prenant garde à ne pas trop approcher de l'impressionnante structure.
Sauf quand ils voulaient commercer avec la tour ou y présenter une pétition, les gens normaux restaient toujours à une bonne centaine de pas au minimum de la tour blanche. Les deux porteurs, des costauds en longue veste marron aux cheveux noués en queue de cheval, tentèrent de se frayer un chemin dans la foule en criant
« Cédez le passage à une Aes Sedai! Place! Place pour une Aes Sedai !»
Ces cris n'impressionnèrent pas grand monde. Peut-être parce qu'on ne les crut pas. Même avec les rideaux ouverts, les franges du châle restaient invisibles. Sauf si Moiraine posait ostensiblement un bras sur l'encadrement de la fenêtre. Un comportement vulgaire auquel elle se refusait. Du coup, les passants dans les rues ne s'écartèrent pas plus vite, ni de meilleure grâce, que pour laisser passer les chariots et les carrosses. Ils traînèrent peut-être même davantage les pieds, puisque les porteurs, contrairement aux conducteurs de véhicules, n'étaient pas équipés d'un long fouet au claquement sinistre motivant. Même dans ces conditions, la chaise atteignit assez vite sa destination. Un petit palais, semblait-il, qui se dressait dans un grand boulevard flanqué d'arbres géants pour l'heure encore dépourvus de feuilles. D'inspiration nettement méridionale, l'édifice flanqué de minarets aux quatre coins était doté d'un dôme blanc du plus bel effet. Un large escalier de marbre conduisait à son élégant portique rehaussé de colonnes blanches. Une grande majesté, donc, mais avec une certaine retenue. Ici, les frises sculptées en forme de sarments de vigne affichaient une sobriété de bon aloi, et leur nombre limité procédait très exactement de la même volonté de discrétion et d'économie. Bien entendu, même un imbécile n'aurait pas déposé son argent dans une banque qui faisait pitié. Mais un bâtiment trop luxueux, et donc excessivement coûteux, n'aurait pas inspiré confiance non plus. Le portier en longue veste noire aux manches rayées de rouge s'inclina devant la cliente, la fit entrer dans ce temple de la richesse et la confia à un très beau jeune homme, mais à rien trop grand, qui la guida avec une gravité mesurée jusqu'au bureau de maîtresse d'Ormeil. Mince et déjà grisonnante, la banquière était rien plus petite que Moiraine. Son frère aîné était déjà le conseiller financier du père de Moiraine, et il continuait à gérer le compte qu'elle gardait à Kaerien. Du coup, choisir Elaine d'Ormeil à Tarvalon avait été facile. Un sourire flotta sur les lèvres de la banquière, d'habitude très réservée, lorsqu'elle vit le châle aux franges bleues. Puis elle se fendit d'une révérence profonde mais pas trop. Comme il convenait dans les rapports d'affaires, cette marque de respect n'avait rien à voir avec le nouveau statut de Moiraine, qui y avait déjà droit lorsqu'elle portait encore sa robe d'acceptée. Informée de la somme que Moiraine avait déposée à son arrivée et au courant des revenus que lui faisait parvenir son domaine chaque année, maîtresse d'Ormeil avait toutes les raisons de tenir sa cliente en haute considération. Cela dit, son sourire était parfaitement sincère.
« Puis-je vous féliciter, Moiraine Sedai ?»
demanda-t-elle, en guidant sa cliente jusqu'à un moelleux fauteuil à haut dossier.
« Voulez-vous un peu de vin aux épices ?
Une infusion ?
J'ai aussi du gâteau au miel et de la graine de pavot. Un peu de vin fera très bien l'affaire. »
Moiraine Sedai. C'était la première fois qu'on l'appelait ainsi, et la jeune femme dut reconnaître qu'elle aimait ça. Quand elle eut donné ses ordres au grand jeune homme, la banquière s'assit en face de Moiraine sans lui en demander la permission. Trop de servilité chez un conseiller financier finissait par éveiller les soupçons.
« J'imagine que vous êtes venu déposer votre traitement. »
Bien entendu, une femme du métier ne pouvait pas ignorer l'existence des lettres de change.
« Si vous êtes ici en quête d'informations supplémentaires, en revanche, désolé de vous apprendre que je n'ai rien de nouveau. Tout est dans la lettre que je vous ai envoyée. »
Le sourire de Moiraine se figea, mais elle se ressaisit et susurra.
« Et si vous me répétiez tout ça ? Vous l'entendre raconter de vive voix attirera peut-être mon attention sur des détails qui m'ont jusque-là échappé. »
Maîtresse d'Ormeil inclina très légèrement la tête.
« C'est bien possible. Comme je vous l'ai écrit, il y a 9 jours de ça, un homme est venu me voir. Un de vos compatriotes, porteur d'un uniforme de la garde de la tour, qui prétendait se nommer Ries Gortanes. Un jeune homme très bien éduqué, de très bonne culture, et peut-être même d'origine noble. Bien plus grand que moi, très large d'épaules, avec un maintien de militaire. Rasé de près, bien sûr, avec des traits réguliers et agréables, malgré la cicatrice qui courait du coin de son œil gauche jusqu'à son oreille. »
Le nom et la description ne rappelaient rien à Moiraine. Dans le cas contraire, elle n'en aurait de toute façon rien dit.
« Continuez, je vous prie. Ce capitaine m'a présenté un ordre prétendument signé par la chaire d'Amirline et portant son sceau. Ce texte exigeait que je laisse mon visiteur prendre connaissance de toutes les données financières vous concernant. Hélas, pour ce gredin, je peux aisément reconnaître la signature de Tamra Ospenia. De plus, la Tour Blanche sait très bien que je ne suis pas du genre à trahir les secrets de mes clients. J'ai chargé plusieurs garçons de bureau de ceinturer l'individu, puis de l'enfermer dans une salle forte vide. Puis j'ai fait prévenir la véritable garde de la tour. Je regrette de ne pas lui avoir arraché le nom de son ou de sa commanditaire, mais Comme vous le savez, les lois de la tour sont très strictes sur ce sujet. »
Le grand jeune homme revint avec un plateau laissé d'une carafe d'argent et de deux gobelets ouvragés. Maîtresse Dormeil attendit qu'il soit parti avant de reprendre.
« Le faux capitaine s'est évadé avant l'arrivée des gardes. »
La banquière s'empara de la carafe et servit le vin.
« Une histoire de corruption. »
Elle eut une grimace dégoûtée, puis sourit en tendant son gobelet à Moiraine.
« J'ai fait fouetter le jeune traître, et je puis vous assurer qu'il ne s'assiera pas de sitôt. Puis je l'ai fait engager comme mousse de cale sur un bateau qui faisait voile vers Théar, avec une cargaison de poivrons. Une fois à destination, il sera débarqué sans le sou, sauf s'il parvient à convaincre la capitaine de le garder. Je sais qu'il sera fauché, parce que je me suis fait verser son salaire. Mais c'est un beau jeune homme, donc il aura une chance. Je crois que la capitaine y pensait quand elle m'a remis son argent. »
Moiraine regarda son interlocutrice, les sourcils froncés de perplexité. Depuis le début de l'entretien, elle se rengorgeait de son calme parfait, au moins égal à celui qu'elle avait affiché pendant l'épreuve.
« Le faux capitaine a violé la loi de la tour, Moiraine Sedai. Donc on m'a demandé de livrer son complice à la garde. Mais j'aime mieux que les affaires internes de la banque restent internes. Je vous ai mise au courant parce que vous êtes impliquée. Vous saisissez ?»
Moiraine acquiesça. Bien évidemment, aucune banque ne se vantait que l'un de ses employés soit corrompu. Si le jeune coupable s'en était tiré à si bon compte, c'était sans doute parce qu'un père, une mère ou un oncle puissant veillait sur lui. Sinon, il aurait certainement navigué sur le fleuve sans avoir besoin d'un bateau, et en nourrissant les poissons au passage. Les banquiers n'étaient pas des tendres. Maîtresse Dormeil ne demanda pas à sa cliente ce qu'elle pensait de cette sombre affaire. Ce n'était pas dans ses attributions, et la curiosité ne faisait pas partie de sa liste de compétences. Appréciant cette discrétion, Moiraine n'avait jamais déposé beaucoup d'argent à la tour. Durant son noviciat, quand elle n'avait pas accès à la ville, ça ne lui avait pas servi à grand-chose. Devenue une acceptée, elle avait acquis un peu plus de liberté de mouvement. Aujourd'hui, les lois de la tour exigeaient que le conseil d'administration de la banque soit composé d'un nombre égal de représentantes de tous les ajats. Devenue une Aes Sedai, Moiraine n'avait aucune envie que d'autres sœurs bleues, et encore moins d'obédience différente, soient au courant de ses affaires. Et l'histoire qu'elle venait d'entendre ne l'inciterait pas à changer d'avis. Mais pourquoi la tour avait-elle escamoté la lettre de maîtresse Dormeil? Pour lui faire croire qu'on n'envisageait plus de la propulser sur le trône du soleil? C'était la seule explication plausible. Mais le hall avait commencé les manœuvres d'approche, avec la furtivité de voleurs visant à dérober la bourse d'une dame protégée par des gardes du corps. Des manigances suffisantes pour attirer l'attention de tierces personnes. Sinon, comment expliquer qu'un de ses compatriotes ait tenté de savoir ce qu'elle faisait de son argent et avec qui? Par la lumière. Le hall n'avait pas renoncé, et elle risquait de se retrouver assise sur le trône du soleil avant d'avoir compris ce qui lui arrivait. Ne trahissant rien de ses angoisses, comme il convenait, Moiraine but un peu de vin, puis elle sourit.
« Maîtresse Dormeil, vous vous êtes montrée très efficace et loyale à mes intérêts, même si votre noble maison en a souffert. Ayez l'obligeance de transférer de mon compte au vôtre la récompense qui vous semblera méritée. »
Comme il convenait, la banquière fit d'abord mine de refuser, puis elle accepta avec une hésitation discrète, que Moiraine remarqua à peine, parce qu'elle avait d'autres chats à fouetter. Elle devait trouver un moyen d'échapper à son destin, et il était temps de commencer à tirer des plans. S'il était un peu tôt pour fuir, il fallait s'y préparer. Elle signa sa lettre de change et, avant de partir, laissa à maîtresse Dormeil des instructions qui ne parurent pas la surprendre. Parce qu'elle était originaire du Cairien et n'ignorait rien du Daes Daimar? Ou parce que tous les banquiers étaient d'un stoïcisme à toute épreuve? À moins qu'elle ait d'autres Aes Sedai dans sa clientèle. Si c'était le cas, Moiraine l'apprendrait de la bouche de ses collègues, si elle devait l'apprendre. Car maîtresse Dormeil était encore plus muette qu'un tombeau. Revenue à la tour, Moiraine se mit en quête d'un nom de couturière. Cinq sœurs bleues affirmèrent que Tamoré Alcoïma était la meilleure de Tarvalon. Et celles qui citèrent d'autres noms convinrent que Tamoré figurait dans le peloton de tête. Le lendemain après-midi, Siouan et Moiraine se firent conduire en chaise à porteur jusqu'à la boutique de maîtresse Alcoïma. Comme de bien entendu, Siouan râla d'abondance sur le prix de la course. Un misérable petit sou, rien de plus. Pour la convaincre de venir, Moiraine avait déjà dû batailler ferme. Mais comment une femme sensée pouvait-elle croire que quatre robes lui suffiraient? La fille de pêcheur devrait apprendre à être moins radine à l'avenir. Sise dans un grand bâtiment commercial qui semblait composé exclusivement de courbes, la boutique de maîtresse Alcoïma contenait des dizaines de rouleaux de tissus de toutes les couleurs, soigneusement rangés sur des étagères murales. Les courbes convenaient parfaitement à Tamoré. Le teint clair pour une domanie
elle était voluptueuse au point que la défunte Jitara, à côté d'elle, aurait eu des allures de garçon. Lorsqu'elle vint saluer ses visiteuses, un privilège qu'elle dure à leur châle, elle ne semblait pas marcher comme le commun des mortels, mais plutôt flotter gracieusement entre les rayonnages, lestés de rubans et d'échantillons de dentelle. Avec une souplesse de danseuse, elle exhiba les mannequins de bois qui servaient de support à des créations en cours de réalisation. Les six petites mains de la couturière s'inclinèrent respectueusement devant les deux clientes. Jeunes et jolies, ces filles portaient une tenue représentative de leur pays d'origine, sortie de l'atelier, si on en jugeait par leur qualité. Tamoré, elle, ne s'inclina pas. À l'évidence, elle connaissait sa place dans le monde. Simple et élégante, sa robe de soie vert pâle, très moulante, laissait plus que clairement deviner les formes épanouies qu'elle aurait été censée cacher. Le sourire de la couturière s'élargit lorsque ses clientes passèrent commande. Une réaction justifiée, car fort peu de femmes renouvelaient toute leur garde-robe dès la première visite. Enfin, ce fut en tout cas la démarche de Moiraine. Siouan avait fini par céder sur 6 robes, histoire d'en avoir une par jour de la semaine avec celle qu'elle portait. Mais 6 robes en laine, afin de rogner sur le prix. Ne reculant devant rien, Moiraine commanda 20 tenues complètes, dont la moitié avec la jupe fendue si pratique pour l'équitation. Et bien entendu, elle opta pour la plus belle qualité de soie. Elle aurait pu se contenter de la moitié, mais si le hall de la tour vérifiait, ça donnerait l'impression qu'elle entendait prendre racine à Tarvalonne. Les deux amies passèrent très vite dans l'arrière-boutique, où 4 petites mains, sous le regard de leur patronne, les dévêtirent, puis prirent une multitude de mesures. Pendant cette opération, elles firent tourner les deux jeunes femmes sur elles-mêmes, histoire que Tamoré détermine comment elle allait devoir travailler. En toute autre circonstance, cet examen aurait fait rougir Moiraine. Chez une couturière, c'était différent. Puis vint le moment du choix des tissus. En femme d'expérience, Tamoré proposa essentiellement des nuances de bleu.
« Je veux quelque chose de décent, » marmonna Siouan. « À ras du cou, et pas du tout évocateur. »
En prononçant ce dernier mot, la fille de pêcheur désigna la robe de la couturière. Moiraine faillit s'en étrangler. Pas la lumière. Siouan n'avait pas l'intention de continuer dans cette voie.
« C'est peut-être un peu trop clair et léger pour moi. »
dit l'héritière de la maison d'Amodred, alors qu'une grande fille blonde en robe verte au décolleté carré un peu trop profond ajustait sur son corps une longueur de soie bleu ciel très fine.
« Je pensais à une coupe de Kyrienne, mais sans les couleurs de ma maison, et sans broderie non plus. »
À l'intérieur de la tour, elle n'aurait pas pu arborer les couleurs des d'Amodred. Encore une occasion de se trahir, évitée de justesse.
« Une coupe de Kyrienne, bien sûr, »
répéta Tamoré, en se tapotant pensivement la lèvre inférieure.
« Oui. » Ça vous irait à merveille. En revanche, la couleur est parfaite pour votre teint laiteux. La moitié de vos robes devrait être de couleur claire. Et les autres décorées de broderies. Vous êtes faites pour l'élégance, pas pour passer inaperçu.
Et si nous transigions pour 1/4 de chaque?
Une coupe du Kyrienne vous irait à merveille? Cette femme insinuait-elle que Moiraine n'aurait pas pu porter une robe de Mani? Non qu'elle en ait eu envie. À ses yeux, la tenue de la couturière était indécente. Mais c'était une question de principe.
Il vous faut au moins 1/3 de tenue claire. C'est un strict minimum. Et au moins autant de robes brodées. Non, la moitié de votre garde-robe dans ce deuxième cas.
Sourcils froncés, Tamoré se tapota de nouveau la lèvre.
1/3 de robes claires et la moitié de brodées,
capitula Moiraine, avant que son interlocutrice fasse encore monter les enchères. Avec une bonne couturière, tout l'art était de savoir négocier. Au fond, supporter quelques broderies ne serait pas une torture.
« Maîtresse Alcoïma, vous n'avez rien de moins cher ?»
demanda Siouan, en regardant dubitativement le carré de laine bleue drapé autour de son torse. Misère, elle avait demandé les prix. Comment s'étonner de l'air scandalisé des petites mains qui s'occupaient d'elle ?«
Tamoré, vous voulez bien m'excuser ?»
demanda Moiraine. La couturière ayant acquiescé, la jeune femme rendit la longueur de soie bleue à l'andorienne blonde, puis elle entraîna Siouan à l'écart.
« Écoute-moi bien et ne discute pas. Il ne faut pas faire attendre trop longtemps, Tamoré. Ne parle pas des prix, c'est compris? Elle nous les révélera à la fin, quand nous aurons choisi. Ici, tu n'auras rien à bon marché, mais les robes de Tamoré te donneront l'allure d'une Aes Sedai au moins autant que ton châle. Au fait, il faut l'appeler Tamoré, pas maîtresse Alcoïma. Si tu ne respectes pas l'usage, elle croira que tu te moques d'elle. Mais essaie de penser à elle comme à une sœur qui te serait un peu supérieure. Une touche de déférence s'impose. Oh, 3 fois rien. Comme ça, elle te dira ce que tu dois porter, pour te montrer sous ton meilleur jour.
Par-dessus son épaule, Siouan foudroya du regard la couturière. Par la lumière, comment osait-elle?
Et le fichu cordonnier? Il nous dira quel genre d'escarpin acheter? Puis il nous facturera de quoi payer 50 filets de pêche neufs? Non, répondit Moiraine, de plus en plus nerveuse. Tamoré fronçait à peine un sourcil, mais c'était suffisant pour nouer les entrailles de Moiraine. Le sens profond de ce sourcil se devinait aisément. La couturière estimait qu'on l'avait déjà fait attendre trop longtemps, et cette indélicatesse aurait un prix. D'autant plus élevé si elle avait remarqué le regard furibard de Siouan.
« Le cordonnier fera ce qu'on lui demandera, et avec lui nous pourrons marchander. Mais pas trop, afin qu'il ne sabote pas le travail. Il en ira de même avec le gantier, la marchande de lingerie et tous les autres commerçants. Félicite-toi qu'aucune de nous n'ait besoin d'une coiffeuse. Les meilleures sont de vraies mégères, presque aussi terribles que les parfumeuses. »
Siouan éclata de rire, comme si son ami plaisantait. Mais elle verrait, si elle s'asseyait un jour dans un salon de coiffure, ignorant à quoi elle ressemblerait en sortant, jusqu'au moment fatidique où la coiffeuse l'autoriserait à se regarder dans un miroir. En tout cas, les choses se passaient ainsi à Caerienne. Une fois les couleurs choisies et la configuration des broderies déterminées, d'âpres négociations là encore, y compris sur les modèles qu'il conviendrait d'ornementer, les deux amis durent encore subir le premier essayage, une mission délicate dont Tamoré, une pelote à épingle au poignet, se chargea en personne. Moiraine découvrit alors le prix de l'indélicatesse que Siouan et elle avaient commise. La soie que la couturière utilisa se révéla d'un bleu si clair qu'il confinait au blanc. Quant à la robe de laine bleue foncée de Siouan, tout laissait penser qu'elle serait aussi moulante sur les hanches et la poitrine qu'une tenue d'Omani. Mais le châtiment aurait pu être pire. Pour se venger, Tamoré aurait pu les piquer chacune une dizaine de fois et demander un essayage pour tous les modèles. Cela dit, Moiraine ne se fit plus d'illusions. Ses plus belles tenues seraient très claires. L'affaire était entendue. Quand les deux esquisses eurent été transférées sur des mannequins de bois, Tamoré mentionna enfin le prix de sa prestation. Siouan roula des yeux ronds comme des billes, mais elle eut la judicieuse idée de ne rien dire. Dans une ville comme Tarvalon, une couronne d'or pour une robe en laine et 10 pour une en soie étaient des tarifs raisonnables, chez une couturière du niveau de Tamoré. En femme d'expérience, Moiraine souffla qu'une livraison rapide de la commande serait récompensée par un généreux bonus. Sans cette précaution, les deux amis auraient pu attendre des mois. Avant de partir, Moiraine dit à Tamoré qu'elle prendrait 5 robes d'équitation supplémentaires. À la mode du Caerienne, précisa-t-elle, et sans fantaisie. En langage clair, cela signifiait qu'elle voulait des robes sombres avec 6 rayures sur la poitrine, du rouge, du vert et du blanc alternés, soit beaucoup moins que le lui autorisait son statut en réalité. La Domani ne réagit pas, mais elle assimila l'information, déduisant, à tort, que Moiraine appartenait à une lignée de nobles plutôt mineurs. Mais travailler pour des Aes Sedai était aussi gratifiant que coudre pour la haute chair d'une maison, voire pour une tête couronnée.
Confectionnez-les pour qu'elles durent, je vous prie,
conclut Moiraine.
Et ne nous les faites pas livrer. Quelqu'un passe à les prendre.
Je vous promets qu'elles seront inusables, Aes Sedai.
Eh bien, si ces plus belles robes risquaient d'être très claires, Moiraine avait parfaitement accompli le second volet de son plan. Désormais, elle était aussi prête qu'on pouvait l'être.